Fred at School Show. Fred at School Show.
Vous êtes sur Fred Film Radio avec Bénédicte Pro et nous parlons de nouveau pour la quatrième et dernière fois cette année du programme d'éducation à l'image par le biais d'une initiation à la radio, Fred at School. Je dis par le biais de, et non pas seulement, et parce que c'est ce qui s'est confirmé au fur et à mesure de cette première édition pilote de notre initiative pan-européenne. C'est que la créativité et la démarche constructive qu'implique la création de clips audio par nos élèves favorise la construction de leur regard critique sur les films que nous leur proposons. Je l'ai constaté. Nous allons revenir amplement plus tard dans cette émission sur le fameux regard critique des élèves et sur la manière dont les réflexions des élèves se rapprochent parfois d'analyses de films publiées dans Le Monde et oui, et même dans Télérama. Pour ce qui est des films que nous présentons aux élèves, ils sont, rappelons-le, choisis parmi tous les titres semi-finalistes au prix Luxe du Parlement européen depuis sa création. Rappelons aussi que nous avons la Commission européenne à nos côtés, puisque Fred at School a reçu des financements de la part de son programme Europe Créative, ou plus précisément de son sous-programme Média, qui en fait partie. Mais le film dont nous parlons aujourd'hui a fait plus qu'arriver parmi les 10 semi-finalistes annuels au prix Luxe. C'est le gagnant du prix Luxe 2012. Il s'agit de La Petite Venise, de l'Italien Andrea Segre. Comme 3 ans sont passés depuis la sortie du film en Italie et dans de nombreux autres pays, notamment européens, je vous propose de nous rafraîchir la mémoire en écoutant le clip sur La Petite Venise réalisé par Fred Film Radio pour Fred at School.
Fred at School. Io sono lì. La Petite Venise. Après sa présentation à la 68e Mostra de Venise, dans la section indépendante Venice Days, La Petite Venise, écrit et réalisé par Andrea Segre, est sorti dans les cinémas italiens en septembre 2011, puis dans de nombreux autres pays européens, dont la France et l'Espagne. Le film raconte l'histoire de Shun Li, une immigrée chinoise en Italie qui doit travailler très dur dans une usine de textile pour obtenir les documents nécessaires à faire venir son fils en Italie. La Petite Venise a remporté 3 prix à Venise, notamment le prix FEDIC, Fédération Italienne des Ciné-Clubs, pour l'originalité de son histoire qu'il voit avec habileté entre la fiction et le documentaire et peint un tableau authentique et convaincant de la réalité actuelle. Le travail d'Andrea Segre, souvent sous le feu des projecteurs à Venise depuis le récit africain « Dio era un musicista »« Dieu était musicien » 2005, tourne autour de la question de plus en plus brûlante de la marginalisation de certaines populations et de l'appréhension de leur spécificité ethnique à travers l'observation de la manière dont elles se heurtent avec les différents aspects de la société d'accueil. En 1998, son premier documentaire, Lo sterminio dei popoli zingari, littéralement l'extermination des peuples tziganes, comme son deuxième 10 ans après, Come un uomo sulla terra, comme un homme sur terre, évoquait les expériences et les souffrances d'immigrants en route pour l'Europe. Sans oublier Il sangue verde, le sang vert, qui reconstruit les affrontements de Rosarno en Calabre. En janvier 2010, des centaines d'immigrants ont manifesté dans les rues contre la discrimination et les conditions de vie misérables qui leur sont imposées, brûlant des véhicules et se battant contre la police. La Petite Venise marque les premiers pas de Segre dans la fiction. Mais on retrouve dans ce film sa sensibilité de documentariste, notamment dans son style photographique, qui s'attache à exploiter la profondeur et la complexité des lieux authentiques où se déroule l'intrigue. Cette détermination à reproduire la réalité sociale est évidente dans le choix du troquet au travail l'héroïne du film, Shun Li. Il s'agit de l'Osteria Paradiso de Chioggia, dans la lagune vénitienne. Un établissement fréquenté par les pêcheurs qui a inspiré la rencontre qui est au centre de l'histoire et qui est véritablement gérée par des immigrants chinois. Comme Segre le souligne, le film s'inspire d'une histoire vraie, d'une vraie rencontre avec une chinoise qui travaillait derrière le comptoir d'une taverne fréquentée par les pêcheurs de Chioggia. Je me suis demandé, quel genre de relation pourrait-elle bien établir dans une région comme la mienne, aussi inaccoutumée au changement ? À partir d'une rencontre réelle, j'ai eu l'idée de romancer l'histoire. Depuis La Petite Venise, Andrea Segre a fait en 2013 un documentaire intitulé Indebito, dette indue, qui reste dans la lignée de ses thèmes de prédilection et de son approche poétique. En suivant la tournée du musicien italien Vinicio Capossela en Grèce, il propose une analyse passionnée de la culture de la société grecque en ces temps de crise économique. Le long métrage de fiction La Prima Neve, littéralement La Première Neige, sorti lui aussi en 2013, suit un Togolais qui émigre vers l'Italie, s'installe dans une région montagnarde et tisse des liens forts avec les autochtones. Pour commémorer, un an après, le tragique naufrage survenu en octobre 2013 près des côtes de Lampedusa, causant la mort de 366 migrants, Segre a dévoilé « comme il peso dell'acqua », littéralement « comme le poids de l'eau ».
Alors nous disions que le film d'Andrea Segre a gagné le prix Lux, mais ce n'est pas le seul prix qu'il a gagné, il a eu 3 prix à la Mostra de Venise, justement, et plusieurs autres trophées importants en Italie et ailleurs. Et il a aussi beaucoup circulé en Europe, par le biais des institutions. Les députés du Parlement européen l'ont vu, pour voter pour le prix Lux, mais les institutions nationales ont bien relayé dans chaque pays. Et c'est un peu la fonction du prix Lux. Ce qui est offert aux gagnants, en fait, c'est la possibilité d'être traduit dans chacune des langues européennes et soutenu dans sa distribution dans les cinémas de tous les pays membres de l'Union. Avant cela, les finalistes eux-mêmes, pas seulement le gagnant, voyagent dans de nombreuses villes partout en Europe à l'occasion des Lux Film Days. Dans le cadre de cet événement, des jurys composés du public, partout en Europe, peuvent aussi voter. Donc c'est aussi pour cela que le film a bien fait parler de lui au niveau international, grâce au dispositif du prix Lux. En France, il a très bien fonctionné, mais c'est aussi parce qu'il a un coproducteur français, la société Aeterna Films, que nous aurons en ligne plus tard dans cette émission. Moi, si je devais donner un prix au film, ce serait sans hésitation le prix du meilleur titre de film. Au sujet des titres, je note que pendant cette édition pilote de Fred at School, comme on utilise tantôt le titre original, le titre international, parfois le titre français ou le titre traduit en français, les élèves ont parfois été un peu confus par rapport au titre. Est-ce grave ? Je ne sais pas. Mais c'est peut-être une chose à noter pour l'édition suivante si Fred at School est renouvelé. Et on l'espère, parce que vraiment, ce programme tient toutes ses promesses. Bref, de fait, en parlant de titres, donc, dans le cas de La Petite Venise, alias Io sono lì, les élèves n'ont sans doute pas eu l'occasion de remarquer que ce titre italien a 2 sens. Io sono lì, je suis lì, donc ce serait notre héroïne chinoise qui dirait ça, mais lì, en italien, ça veut aussi dire là-bas. Donc Io sono lì, ça veut dire aussi je suis tout là-bas, car c'est en grande partie un film sur l'exil. Et puis pour ne rien gâcher dans ce titre sur une héroïne très solitaire, isolée, et pas seulement sur l'île, il y a aussi l'affirmation « Io sono, je suis, j'ai une identité, des goûts, des nostalgies, je suis une personne, et pas une statistique sur l'immigration. » Et puis « je suis », ça veut dire aussi « je ne baisse pas les bras, je veux vivre, j'ai l'espoir d'aller vers une vie meilleure. » Et pour toutes ces raisons, vraiment, le titre « Io sono lì » en italien est parfait, quelle belle trouvaille. Mais j'ai assez parlé, je vous propose de nous quitter un instant et de nous retrouver pour écouter ensemble les réactions des élèves, qu'on jouera par la suite à prolonger en voyant un peu ce que de grands critiques français ont dit sur La Petite Venise. Et on verra que tout le monde n'est pas du même avis sur le film, pas du tout même, que tout le monde n'en a pas du tout la même lecture, n'est pas touché de manière identique. Et aucun de ces critiques n'a vraiment tort, même quand ils disent des choses tout à fait contraires. Et tout cela, toute cette variété de perceptions qu'on peut avoir du film, s'est reflété dans les clips des élèves. A tout de suite donc sur Fred Film Radio.
Fred at School Show.
Vous êtes toujours sur Fred Film Radio pour la 4e et dernière émission française concernant l'édition pilote de Fred at School. Et nous parlons du 4e film donc, La Petite Venise d'Andrea Segre, de son titre original, Io sono lì. Laissons donc les secondes de Madame Afonso en Bourgogne nous rappeler les grandes lignes du film.
Fred at School.
Bonjour, nous sommes la classe de seconde 1 dans le lycée La Colombière, dans l'ensemble Saint-Charles. Je me présente, je suis Lucie. Le résumé sera fait par Sophia. Katharina prendra le relève pour la critique. Et Alexia conclura. Notre classe est constituée de 28 élèves. Nous avons visionné le dernier film du nom de Io sono lì.
D'après le court extrait du film que nous avons regardé, nous allons tenter de vous faire un résumé. Ce film raconte l'histoire d'une Chinoise nommée Shun Li, immigrée clandestinement en Italie. Elle travaille dans une usine de textile, tous les jours elle en fait un peu plus pour faire venir son petit garçon dans le pays. Elle va être mutée dans un bar à Venise où elle va faire la rencontre d'un homme surnommé le poète. Suite à cette rencontre, va-t-il naître entre eux une grande histoire d'amour ? Shun Li pourra-t-elle revoir son petit garçon ?
Shun Li est dans une situation sociale difficile. Elle est donc en train d'immigrer clandestinement dans un pays dont elle ne connaît ni la langue ni les coutumes. Elle est donc exploitée et contrainte de travailler dur pour pouvoir faire rentrer son fils en Italie. Ce film nous permet de faire prendre conscience des obstacles que les gens démunis rencontrent. Cela nous sert de sortir de notre bulle.
Nous vous avons présenté le film Io sono lì, Sur les trois films visionnés, celui-ci paraissait le plus intéressant et le plus réaliste. Le projet Fred at School en lui-même peut être sympa, mais les difficultés que nous avons rencontrées pour visionner le film nous ont déçus. Yo Sonoli fut le plus captivant des trois films malgré que nous ayons visionné qu'un court extrait.
Du côté des premières littéraires de Madame Gandreau, professeur d'art plastique, à qui nous aurons le plaisir de parler tout à l'heure, ils ont bien identifié les thématiques en jeu et relevé le rôle du paysage, tout en racontant l'intrigue, en suivant le fil rouge de la bougie flottante du poète. Écoutons les dons.
Fred at School.
Bonjour, nous sommes en direct du lycée Saint-Charles, la Colombière, avec la classe de première L. Nous allons débattre sur le film que nous venons de voir, qui s'appelle La Petite Venise.
Chenny travaille en Italie pour faire venir son fils. Et puis il y a beaucoup d'Italiens qui disent que les Chinois, ils leur prennent tout, tout ça. Et puis en plus, le pire, c'est que où elle est logée, si jamais elle est amenée avec un Italien, bah, elle le servirait.
Il faut savoir que les Chinois en Italie sont victimes de beaucoup de préjugés du point de vue des Italiens.
C'est un film avec peu d'action, du coup on trouve pas beaucoup d'intrigue.
Qu'on se concentre sur les sentiments.
On les fait un peu comme un journal de bord, on suit la vie des personnages tous les jours.
Leur routine.
Quand on parle de Venise, on a toujours une idée que c'est beau, enfin...
C'est la vie de l'amour.
Là on voit l'envers du décor. Des paysages pas très très jojo quoi.
Pas très gay.
Pas très gay, voilà.
Un peu délabré.
Allez, dans le 9-3.
Néanmoins, avec l'univers marin, on est dépaysé et on retrouve justement les origines de cette jeune femme. Donc ça va être très intéressant.
Avec les paysages, avec l'eau, etc. Et la musique aussi qui rappelle beaucoup la Chine.
Contrairement au dernier film, il y a de la musique.
Oui, mais c'est des musiques douces.
Voilà.
Elles sont calmes.
C'est du piano, généralement.
Ça rappelle la Chine.
Il y a parfois des scènes avec de la musique et on aperçoit des morceaux de paysages aux alentours de Venise. Et ces paysages avec l'eau et les montagnes dans le fond, ça nous rappelle peut-être les différentes peintures chinoises.
On remarque aussi que dans le film, à un moment, il y a une jeune fille qui fait du tai chi et qui porte les mêmes vêtements. Et puis ça arrive parfois dans le film qu'on revoit justement cette jeune fille.
On voit aussi qu'il y a certaines traditions, par exemple la fête du poète. Elle prend des espèces de... d'espèces de bougies en papier et elle les met dans l'eau. Puis avec sa main, elle essaie de les faire avancer.
Le film commence justement quand la Chinoise est en train de célébrer la fête du poète, sauf qu'elle vit avec d'autres Chinois et eux rejettent la tradition. Car comme ils sont en Italie, ils ne veulent plus des traditions chinoises. Elle se retrouve toute seule à vouloir célébrer cette fête.
Dans le fond, on sent qu'il y a une histoire d'amour entre le vieux pêcheur et puis la Chinoise. Enfin, la Chinoise, elle prend plus le vieux pêcheur pour son ami, mais le vieux pêcheur, ça se voit qu'elle a des sentiments d'amour pour elle.
À un moment, il offre un poème à la Chinoise.
Et aussi, au moment, il fait flotter une espèce de bougie dans le bar qui est complètement inondée. Puis on voit que ça touche énormément la Chinoise.
Alors qu'elle part, elle met une bougie dans un des canaux de Venise et la bougie continue et au même moment, il y a le vieux pêcheur qui passe sur un pont.
Quand elle veut revenir voir son ami et son ancienne colocataire, bah, elle se rend compte qu'en fait, elle a tout perdu. Enfin,
son colocataire a disparu et puis son ami est mort.
Le pêcheur lui a écrit une lettre et lui a demandé de célébrer sa mort comme on célèbre la mort du poète en Chine. Et du coup, elle va brûler une cabane qui appartenait au pêcheur, qui est sur l'eau.
On peut également dire que l'incendie de la cabane nous fait également penser à la scène avec la bougie. Ça peut être un lien très intéressant à une échelle beaucoup plus importante. À l'échelle du paysage, c'est la scène finale. Ce film a été très intéressant car il était très sentimental et on voit une certaine juxtaposition de plusieurs cultures. Et c'était très intéressant.
C'était les premières aides du lycée Saint-Charles à Chalon.
Merci!
Alors là-dedans, j'entends Venise envers du décor. J'entends que les paysages sont ici le miroir des états d'âme et contiennent dans leur beauté et leur calme tout ce que les héros ne disent pas, tout ce qu'ils gardent dans leur silence poétique. J'entends aussi que le film est un peu fade, mais j'entends aussi qu'aussi poétique qu'il puisse être, certains élèves le trouvent plus réaliste que les films précédents du programme Fred at School, ce qui peut paraître étonnant, ce qui m'a étonné. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour faire dialoguer ces impressions et réactions de nos élèves avec les commentaires de quelques excellents critiques de cinéma français. Nous parlons toujours du quatrième et dernier film du programme Fred at School et vous êtes sur Fred Film Radio.
Fred at School Show.
Nous revoilà sur Fred Film Radio, je suis Bénédicte Pro et nous parlons toujours du dernier film Fred at School, La Petite Venise. Comme promis, à présent que nous avons entendu les élèves, on va se concentrer un peu sur l'approche critique du film, la leur et en général, car n'oublions pas que le plus magnifique objectif de Fred at School est d'engager les jeunes participants à se construire un regard critique, et que ça marche incroyablement. Depuis le début, vraiment, je vais de merveilleuses surprises en surprises. Les élèves sont vraiment formidables, ils jouent le jeu, ils y prennent plaisir, et leurs pensées cheminent à un rythme soutenu, et c'est un plaisir à voir. C'est pourquoi il m'a semblé intéressant de faire dialoguer leurs commentaires et certaines critiques de critiques émérites et d'identifier encore davantage à travers cela les ponts que nos jeunes spectateurs sont en train de construire eux-mêmes vers une approche plus experte. Alors à ceux qui ont trouvé le film un peu plat et fade, d'abord, je veux faire part de ce qu'a dit le critique du Monde. Il a dit quelque chose d'assez similaire, dans le Monde. Avant d'attaquer, le critique en question, Aurélien Nottonnet, fait observer très justement que La Petite Venise d'Andrea Segre illustre deux tendances actuelles du cinéma italien. Il y a d'abord celle qui consiste à prendre le contre-pied de l'image de la Venise de rêve, ville de l'amour. Bon, c'est pas faux. Les élèves, en effet, ont parlé d'envers du décor. Mais surtout, on remarque dans ce film une autre tendance, plus politique, du cinéma italien actuel, qui consiste à aborder le sujet de l'immigration, un sujet qui a été récurrent au cours de cette première édition de Fred at School, mais qui restait jusqu'à récemment assez tabou en Italie. À présent, surtout à la lumière des naufrages tragiques qui sont survenus près de Lampedusa, une petite île au milieu de la Méditerranée qui est encore l'Italie, mais qui est aussi la porte de l'Europe, et donc le premier témoin d'histoires d'immigration terribles, à la lumière de cela, des fictions et des documentaires sur le sujet voient régulièrement le jour en Italie en ce moment. Mais on parle surtout du sud-ouest, du bout de la botte dans ces films, alors que dans La Petite Venise, c'est une autre immigration encore qui est évoquée. Alors, passé cette petite parenthèse explicative, les élèves qui ont reproché au film une certaine platitude seront contents de voir que leur avis est totalement partagé par le critique du Monde. Et il n'y va pas de main morte. Écoutez donc ceci. Donc je cite, « Complexe, quoique quelque peu prévisible, cet écheveau narratif souffre d'une mise en scène univoque et candide, pêchant par manque de mordant. Tout, dans La Petite Venise, semble trop beau, trop bon. Les acteurs livrent une partition sans grande aspérité. » L'auteur note cependant le bel usage de la musique et de la superbe photographie, également remarquée par les élèves, mais il la qualifie de presque trop jolie. Après, on peut discuter de si c'est possible d'être trop jolie ou de si c'est mal, mais enfin, on comprend que ce critique trouve l'ensemble un petit peu à l'eau de rose. L'article continue. Quant aux valeurs défendues tout au long du film, l'universalité de la poésie, la noblesse des petits métiers, l'amour entre les peuples, elles sont appuyées par un sentimentalisme et une symbolique qui confinent, parfois, à l'artificialité. Bon, donc là on voit que ce type du Monde a de grandes réserves sur le ton sentimental, propre, d'une trop grande discrétion peut-être, une trop grande discrétion qui semble un peu feinte, un peu une posture du film. Mais c'est aussi pour cette photo si romantique de l'eau et de la brume sur la lagune et pour cette poésie qui domine tout qu'on peut adorer le film. Et au lieu de parler de sentimentalisme, parler de délicatesse, parler d'harmonie entre paysage et personnage. Pierre Murat de Télérama dit par exemple... Le réalisateur retrouve en fait la grande tradition du conte à l'italienne de jadis, le cinéma à la Vittorio De Sica, où le réalisme côtoyait la poésie, où les gentils étaient de doux rêveurs face à des méchants nostalgiques de leur pureté perdue. Chez Andrea Segre, les bons sentiments deviennent beaux, comme par miracle. Quand l'un des personnages s'inquiète du vide qui menace sa propre vie, les autres lui promettent aussitôt des étincelles, des merveilles, et soudain, tout le monde y croit. Donc on voit que Pierre Murat de Télérama a apprécié au contraire cette dimension poétique du film. Sur Criticat, dont les contributeurs ne sont pas toujours indulgents avec les films, la critique de La Petite Venise va plus avant. L'auteur Benoît Smith fait observer que, je cite, « Le film est moins intéressant dans l'attention qu'il porte à cette amitié défiant les préjugés, donc entre la chinoise et le pêcheur, que dans sa perception de la violence discrète qui l'entoure. » Andrea Segre, poursuit-il, y fait une peinture assez fine et pertinente de la xénophobie la plus ordinaire, incrustée dans la bienveillance de façade d'une petite ville tranquille. De gens qui sont polis avec elle, mais pour qui elle reste la chinoise. De même que le pêcheur, après 30 ans à Chioggia, redevient d'un coup un étranger. Il redevient le slave dès qu'il se met à fréquenter l'étrangère. Du coup, dans cette optique, on peut dire que l'approche discrète de Segré a été appréciée. Parce qu'il est vrai que Segré n'est pas lourd, il n'insiste pas lourdement sur les choses. Elles sont là dans son film, mais en finesse. Et c'est peut-être ça aussi qui fait son réalisme. On note que le film ne force pas une démonstration ou une explication sur le spectateur, notamment sur les dimensions les plus importantes du film, sur son propos le plus sérieux, l'exil et le fait d'être un étranger et de le rester. Étonnamment, bien que La Petite Venise soit beaucoup plus poétique, symbolique et esthétisée que d'autres films très réalistes que nous avons pu voir pendant cette première édition de Fred at School, certains élèves ont dit « il est plus réaliste ». Alors j'étais étonnée et j'ai beaucoup aimé cette réflexion. Je l'ai trouvée très intéressante et très pertinente, surtout vue sous cet angle de la réflexion sur le réalisme, une réflexion que les élèves ont vraiment faite pendant tout le programme. Elle avait commencé avec Illégal, dont le réalisme est très travaillé. Elle a tourné au débat fougueux avec Eat, Sleep, Die. Là, les élèves ont vraiment questionné le cinéma réaliste dans tous les sens, jusqu'à sa raison d'être et ses procédés, y compris techniques. Je vous propose de faire le point sur tout cela dans quelques instants avec une des enseignantes qui participe à Fred at School France, Catherine Gandreau, qui enseigne les arts plastiques à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne. Vous êtes, bien sûr, sur Fred Film Radio.
Fred at School Show.
Vous êtes toujours sur Fred Film Radio pour parler de Fred at School, acte quatrième et dernier, autour du film La Petite Venise d'Andrea Segré. Et j'ai en ligne avec moi une des enseignantes qui participe au programme, Catherine Gandreau, professeure d'art plastique au lycée Saint-Charles de Chalon-sur-Saône. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors vous avez accueilli avec beaucoup d'enthousiasme l'initiative Fred at School. Vous avez même débauché votre collègue prof de langue Amélie Afonso qui nous a amené une classe de plus. Alors qu'est-ce qui vous a d'emblée plu dans notre projet ?
Alors, l'ouverture sur les langues, et puis l'idée que ça se passe de façon orale, en fait, en tout cas après avoir regardé un film, vraiment s'essayer, je vais dire à la critique, mais en même temps, c'est difficile, ça a été difficile d'aborder vraiment la critique, mais s'essayer à discuter, à avoir un discours autour d'un film ou de plusieurs films, et de développer un petit peu son sens critique.
En tant que professeur d'art plastique, est-ce que vous avez eu un angle particulier ? J'ai remarqué que les élèves parlaient beaucoup du paysage et des éléments picturaux du dernier film.
Alors, j'ai essayé de les sensibiliser à l'image, aux couleurs, aux coloris, à la lumière, au point de vue aussi, peut-être pris par le metteur en scène ou dans les films. Et puis, du coup, peut-être ça les a sensibilisés, ou alors peut-être qu'en amont, j'avais je les avais un petit peu amenés à ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse, moi. Parce que dans notre épreuve, on a aussi l'analyse d'image, donc particulièrement quand vous m'avez proposé le projet. Bon, j'ai tout de suite pensé à l'image. Après, elles ont une connaissance en art plastique, ils ont une connaissance en art plastique, et du coup, l'image, c'est ce qui passe en premier. Donc ça, c'est intéressant. Et ça permet, tout le projet d'ailleurs, permet de travailler le vocabulaire et la façon toujours de parler, de décrire ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on perçoit, etc.
J'ai remarqué que ça a fonctionné, enfin du moins en entendre les clips, j'ai vraiment vu les élèves s'ouvrir, avoir un vocabulaire effectivement, même dans le débat spontané que les filles ont fait sur le troisième film, It Sleep Die, elles utilisaient des termes cinématographiques, donc j'ai vraiment constaté un progrès et une découverte qui s'est produite chez ces élèves. Est-ce que vous avez fait le même constat de votre côté ?
Oui, alors moi, oui, j'ai trouvé que ça avait bien marché dans ce sens-là aussi. Et surtout, j'ai débauché aussi une troisième collègue, c'est-à-dire ma collègue d'anglais, parce que j'avais un petit peu besoin d'aide au niveau des clips en anglais. Et du coup, elle a vraiment été enchantée par cette idée de un petit peu de jeu de rôle, un petit peu s'écouter, se laisser parler et puis rebondir. Donc on a vraiment axé là-dessus, et c'est vraiment ce qui fonctionne bien, quoi. Tout le temps on parle d'ouverture à l'école et on dit toujours que qu'ils sont pas ouverts les jeunes, mais ça c'est un projet, je pense, qui est vraiment intéressant pour ça, quoi. Montrer qu'il n'y a pas de frontière forcément entre ce qu'on fait dans la classe, hein, qui est un petit peu, voilà, qui, enfin, c'est pas théorique un art plastique puisqu'on fait beaucoup de pratiques, mais voilà, il y a quelque chose qui permet de faire le passage, voilà, entre leur vie quotidienne, ce qu'ils connaissent eux d'ailleurs en cinéma, qui est complètement différent en fait, si j'ai bien compris ce qu'ils ont bien voulu me dire, et puis nous, ce qu'on fait à l'école aussi, quoi. Mmh. Faire le lien entre tout ça, quoi.
Au niveau des langues, on espère, si Fred at School est renouvelé l'année prochaine et donc étalé sur l'ensemble de l'année, que les élèves pourront davantage profiter de ce dialogue qu'on leur permettrait de faire à travers les réseaux sociaux, donc probablement en anglais, avec leurs camarades européens.
Nous, on a un problème, je pense, peut-être particulièrement en France, mais dans l'anglais, en tout cas dans les langues parlées. Et bah ça, c'est un projet, on est obligé de parler, donc c'est même principalement l'activité. Donc le son de la voix, penser aussi qu'on parle à d'autres personnes. Mm-hmm. Ça, c'est difficile au début, c'est compliqué, ils sont vraiment timides, un petit peu coincés, et jamais on a beau leur dire que ça passe à la radio, etc. Non, il y a un gros travail de ce côté-là aussi. De ton de la voix, de dynamisme aussi, voilà, être enjoué, enfin bon, s'adresser à d'autres personnes, ça c'est un truc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là.
Oui, absolument, et puis c'est vrai que moi j'ai vu qu'effectivement la création de ces clips entraînait une démarche constructive comme ça qui forçait les élèves donc à développer leur regard critique, du coup, à avoir vraiment une démarche proactive en fait.
Oui, voilà. Aussi se respecter entre eux, parce qu'il y a des moments, j'aurais fait réécouter après, j'ai gardé les enregistrements, je leur fais réécouter et je leur ai dit, voilà, il y a un moment donné, c'est un brouhaha, la personne s'écoute, tout le monde a envie de dire en même temps, finalement on n'entend rien. Et puis aussi le dépasser en fait la simple description de ce qu'ils avaient vu en fait. Parce que souvent ils vont redire, ben voilà, ce film parle de ça, et puis stop. Donc en fait voilà, la critique c'est plus que ça en fait. Mmh. Et ça c'est excellent dans leurs épreuves d'examen, quoi.
Mais c'est vrai qu'on espère donc développer encore ça avec plus de temps. On peut que imaginer la créativité, la créativité qu'ils mettront dans les clips. Mais il y a eu un autre dépassement d'un autre type, j'ai trouvé, c'est que au niveau des films choisis, hein, même s'ils sont actuels, ce qui est peut-être un peu différent des propositions classiques qu'on leur fait dans des classes d'éducation au cinéma d'habitude, mais c'était quand même des films, voilà, assez réalistes avec des rythmes un petit peu particuliers et auxquels, comme vous le disiez, ils sont moins habitués. Et pourtant, la démarche critique, en fait, qu'ils ont développée leur a permis de transcender ça et de quand même, en fait, arriver, sortir des éléments et tirer le fil de l'interprétation et finalement découvrir peut-être une richesse au film qui pensait pas à la première impression à l'issue du dialogue mené ensemble en classe.
Bah, c'est-à-dire que s'ils regardent le film, après, c'est terminé et chacun rentre chez soi, bah, il va rien se passer. À partir du moment où on les oblige à discuter et à créer un clip audio, et puis en plus en anglais, voilà, chacun y met du sien, et puis, ouais, c'est un petit peu la surenchère, c'est un jeu en fait. En fait, c'est un jeu, ces clips audio. Et je pense que ça marche bien.
Mmh. Bah, maintenant que vos élèves connaissent les règles du jeu et que vous avez mis un pied dans cette initiative, j'espère que vous en profiterez, j'espère qu'elle va être renouvelée, que vous pourrez en profiter dans toute sa dimension quand elle sera vraiment étalée comme ça sur toute l'année et qu'on pourra vraiment s'éclater avec tous ces différents supports, tous ces différents jeux auxquels on joue ensemble.
Ah ben oui, moi s'il faut renouveler l'expérience, je suis tout à fait partante et mes collègues aussi, hein, ça c'est clair que... Vraiment, on en retire voilà, une certaine satisfaction, même un peu de fierté. Et c'est un projet un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude aussi. Je trouve que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Ouais.
Eh ben faisons-en une habitude. En tout cas, je vous remercie Catherine de nous avoir accordé ces quelques mots et nous avoir un peu dressé un bilan de l'expérience qui s'achève pour cette année. Merci beaucoup Catherine Gandreau.
Eh bien, merci. Et puis, oui, vraiment que ça continue, Fred at School, là, c'est très, très bien.
C'était Catherine Gandreau, professeure d'art plastique au lycée Saint-Charles à Chalon-sur-Saône. Nous nous retrouvons dans un instant pour parler de La Petite Venise avec Francesca Feder, la coproductrice française du film, à travers sa société Aeternam Film. Vous écoutez, bien sûr, Fred Film Radio.
Fred at School Show.
Vous êtes toujours sur Flat Film Radio avec Bénédicte Pro et nous parlons toujours du film La Petite Venise d'Andrea Segre avec Francesca Feder de la société Aeternam Film, société française qui est coproductrice du projet. Bonjour Francesca.
Bonjour.
Alors comment Aeternam Film est entré dans le projet comme coproducteur français? À quel stade aussi?
En fait, j'étais la première personne qui... On était dans un forum de coproduction à Rome et je suis tombée littéralement amoureuse du projet. J'ai été la première... on va dire interlocutrice, ou je pense la première fan du film avant même qu'il existe, en lisant le sujet de quelques lignes, en rencontrant son producteur, Francesco Bonsembiante et Andrea, donc le réalisateur. Et voilà, et donc en fait on a été tous les trois très très vite d'accord de faire le film ensemble avec ces deux producteurs et Andrea. La France a été la première à... Après, il y a eu l'écriture du scénario et la France a été la première à donner une réponse positive avant l'Italie. C'est Arte France, Michel Rayac à l'époque et le comité qui ont donné la première réponse de financement positif sur ce film. Donc le film a existé, a vu le jour et a démarré grâce aux apports français. Voilà, c'est une aventure rigolote. Le projet a une force, qu'ont peu de projets en fait, qui est une force. Ce projet est européen, mais il est même mondial en fait. Il parle à tout le monde. En fait, c'est dans ces sujets, dans les films du prix luxe, que ce soit un film bulgare, que ce soit un film croate, que ce soit un film suédois, que ce soit un film belge. Souvent, ce qui est intéressant, et il y a des projets comme ça qui dépassent les frontières. Donc en fait, la petite Venise avait au fond d'elle-même un sujet qu'elle portait très fort, d'immigration, de solitude, et qui peut parler à tout le monde. Et après, voilà, je pense que ça, c'est très très intéressant, et c'est ce qui fait entre guillemets son succès, c'est qu'il est, on va dire, c'est un film italien, mais enfin bon, c'est un film italien avec une chinoise et un croate, et pourtant c'est un film très italien, et en même temps c'est un film très français, et en même temps, vous voyez, c'est un film qui aurait pu être, je dis n'importe quoi, peut-être espagnol, il ne l'est pas, mais c'est parce que c'est son sujet qui à mon avis fait la différence. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a aussi une génération comme ça de films qui parle de sujets qui nous touchent tous. Il y avait un film qui s'appelait Macondo, un film, je crois qu'il était autrichien.
Autrichien, ouais. Autrice.
Voilà. Par exemple, c'est des films comme ça, qui sont des jolis films, qui parlent de jeunes enfants, je crois qu'il est turc, qui émigre en Autriche. Enfin voilà, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus vraiment de frontières. Il y a un film qui était à Cannes cette année, c'est d'une jeune femme turque qui habite en France, qui parle de... Voilà. Aujourd'hui, je crois que c'est des nouvelles générations comme ça. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus vraiment de nationalité, il y a des mélanges et ça, c'est intéressant.
Oui, alors
c'est
juste...
la richesse du cinéma européen.
Absolument. Et en même temps, par exemple, dans leur clip, en fait, les élèves, je pense qu'ils ont cherché l'italianité du film parce que ce qu'ils remarquaient, c'est qu'il adoptait un rythme, une esthétique, une musique qui renvoie beaucoup à la Chine. Et du coup, voilà, ils se sont posé la question de ce qui en faisait un film italien en particulier.
Alors en fait, là-dessus, c'est encore autre chose. Alors il y a des moments où on parle sujet et au niveau cinématographique, si je pouvais parler une autre langue, si je parlais la langue cinéma... Dans La Petite Venise, la langue cinéma, il y a quand même une influence, on va dire, asiatique par son personnage et par éventuellement cette lagune qui pourrait très bien être, alors je dis n'importe quoi, au fin fond de Taïwan ou d'un pays de Chine. Enfin, c'était aussi pour là, c'est aussi dans un cinéma, on va dire, chinois, que ce soit un Tsai Ming-yang ou des gens comme ça ou des Hongkongais dans une espèce de rythme qui n'était pas du tout européen. Mais ça c'est une esthétique cinématographique. Donc après, c'est de la cuisine. Je pense qu'on mélange de l'esthétique, des influences, et puis on finit par faire des choses qui ont leur originalité. Et il s'avère que c'est un réalisateur italien, mais voilà. Donc après, c'est comme une recette de cuisine. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs sur les quais à un moment donné. Ils disent, voilà, en fait, ils font des crevettes. Ah ben, nous aussi, on fait des crevettes. Enfin, vous voyez, c'est la même chose. On fait tous des mélanges. Je pense que Jason Koe, qui est le mari de Zhao Tao, qui est un des plus grands réalisateurs vivants aujourd'hui, à mon avis, est un réalisateur chinois. Il avait son film à Cannes. Et pour moi, ce film était un film... Pour moi, c'était proche d'un Rossellini. C'était très proche de ce cinéma italien qu'on aime, et pourtant, c'est un chinois. Et en même temps, quand ils me racontent des histoires, j'ai l'impression d'être dans un film de Rossellini, sauf qu'ils sont chinois et qu'on est en 2015. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces langues-là n'ont pas de... Pour moi, je fais des ponts comme ça. Bon, peut-être que je suis la seule à lui dire, non, je crois que je lui ai dit d'ailleurs que c'est un cinéaste italien. Mais voilà, peut-être que je suis la seule à... Enfin, pas la seule dans ce sens-là, on fait des ponts. Et, et c'est ce qu'a fait Andrea avec La Petite Venise. Il a fait des... Il a dépassé les frontières, a dépassé l'écriture.
Et ce qui est amusant d'ailleurs par rapport à cette histoire de pont, c'est que les élèves, en fait, quand ils ont raconté l'histoire du film, ils ont pas raconté l'intrigue comme on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire une chinoise devient amie avec un pêcheur. Ils ont raconté l'intrigue en suivant la flamme. Ils ont complètement saisi le côté totalement poétique et contemplatif et proche du paysage du film, et ils ont raconté le film en racontant quasiment le départ de la bougie et jusqu'à l'incendie et la flamme de la fin, quoi. C'était.
Mm-hmm. Ouais, non, mais c'est ça. Et en même temps, c'est vrai que c'est ça, c'est aussi le poète, voilà. Mais peut-être que chacun perçoit, c'est très très important la flamme, hein, quand même, hein. C'est ce qui accompagne tout le temps, hein. Oui, mais je pense que les gens, il faut faire confiance aux gens, au public, on croit que parfois il va pas comprendre, et en fait finalement, si on lui fait vraiment confiance, on voit qu'il va voir ces choses-là et que l'intrigue, c'est peut-être pas ce qu'il s'est dit. Ça je connais, en fait. Par contre, la flamme, je connais moins et je me souviens peut-être mieux de la flamme que de l'intrigue que je peux éventuellement connaître. Parfois, il y a une mémoire sélective.
Ouais.
On sait jamais. En même temps, les gens, j'ai appris, quand je fais des films, et ça a été une leçon que j'ai prise avec un premier film que j'avais fait, et qui m'avait assez fait peur, parce que ça parlait de l'incommunicabilité. C'était un film que j'avais fait qui était une adaptation de Dostoïevski, de La Douce. Et à la fin, c'était sur les gens qui n'arrivaient pas à communiquer. Et à la fin du film, les gens venaient et me disaient, c'est mon histoire. Et comme j'ai eu souvent sur Yosonoli, oui, c'est mon histoire, ou c'est l'histoire de gens que je connais, oui, c'est tellement super, voilà. Et en fait, c'est vrai que souvent, les gens regardent les films et vous parlent d'eux et non pas du film. Et ça, c'est souvent quand vous faites des films, c'est très intéressant, et en même temps c'est très effrayant, parce que je me dis, mon Dieu, si ça c'est leur histoire, je suis très inquiète pour eux, parce que c'est pas toujours très gai.
Alors, vous préparez pas mal de projets en ce moment, il me semble.
Là, on prépare un film, on est en pleine préparation d'un film qu'on a développé pendant 3 ans autour de Saint-François d'Assise, qui s'appelle L'Ami, dont le tournage va démarrer à la fin septembre. D'accord. Avec Gaël Garcia-Barnal dans le rôle de Saint-François d'Assise, Jérémy Régnier, Yannick Régnier, Éric Caravaca, Olivier Gourmet. Et c'est l'histoire de la fin de la vie de François d'Assise, et c'est une histoire d'amitié. C'est Saint-François vu par son ami.
D'accord.
Ensuite, on a fini un film en Italie qui s'appelle Viva la sposa d'Ascanio Celestini, qui est un peu une histoire autour de d'Ascanio, effectivement, et on pourrait dire les bas-fonds romains, mais de manière, c'est une fable entre un père et son fils qui se passe à Rome et qui est en cours de finition. Et on prépare un autre très gros film qui s'appelle Bianco de Daniele Bicari, qui va se tourner sur le Mont Blanc, et qui est l'histoire d'une ascension mythique du Mont Blanc par une équipe italienne et une équipe française. Et ça se tournera plutôt en mars de l'année prochaine. Et puis voilà, puis on fait aussi de la série télé avec Arte, des choses différentes, voilà. Donc là aujourd'hui, pour les producteurs, comme quand on est producteur, on est en phase de pré-préparation d'un film qui est L'Ami, dont je parlais au début. Donc c'est déjà bien.
C'est
déjà beaucoup de travail.
En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès avec tous ces projets. Surtout, je vous remercie de nous avoir répondu aux questions aujourd'hui pour Fred Film Radio. Merci Francesca.
Merci.
C'était Francesca Feder de la société Aeternam Film, coproductrice française du film La Petite Venise d'Andrea Segre, film dont nous parlions aujourd'hui dans le cadre de la 4e et dernière émission française consacrée à l'édition pilote du projet Fred at School. Nous remercions donc Francesca Feder, nous remercions également Catherine Gandreau, enseignante et participante au projet Fred at School en Bourgogne. Nous remercions bien sûr tous ceux qui nous ont écoutés et plus que tout, tous les enfants qui ont participé au projet pour leur enthousiasme et pour tout ce qu'ils nous ont appris aussi. À bientôt, je l'espère, sur Fred Film Radio.